Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et comme vous le savez, débutent aujourd'hui les états généraux de bioéthique à l'initiative du Comité consultatif national d'éthique. Il s'agit de mettre en chantier des sujets aussi vastes que la PMA, la GPA, la recherche des origines ou encore la fin de vie et le don d'organes en vue d'une révision des lois de bioéthique prévue pour l'automne prochain. Nous sommes en compagnie d'Irène Théry, sociologue du droit, spécialiste des questions de la famille et auteur notamment de Mariage et filiation pour tous, une métamorphose inachevée publiée aux éditions du Seuil. Irène Théry, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une spécificité française et cette spécificité française, elle pose un certain nombre de questions, notamment au sujet de la PMA, mais également au sujet de la GPA. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelles sont, de votre point de vue, les évolutions qui vous paraîtraient souhaitables en matière donc de loi de bioéthique sur ces deux sujets ?
Eh bien, je pense que les évolutions souhaitables portent d'abord, évidemment, sur l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, plus largement sur une rediscussion de la façon dont on a conçu l'engendrement avec tiers donneur en France. L'idée, en gros, c'est qu'il faudrait sortir du modèle ni vu ni connu qu'on a mis en place il y a 50 ans. On organise des dons et puis on les dissimule. On ne dit pas aux enfants qui sont nés de ces dons. On dissimule les donneurs. Donc le grand changement qui va donc avoir lieu, enfin sur la PMA, enfin, je pense qu'il va avoir lieu quand même, mais évidemment je le souhaite aussi. On ne peut pas manger la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, qu'on ouvre aussi l'accès, la possibilité d'accès à leurs origines pour les enfants nés de dons. Ce sont deux sujets différents mais liés, puisque dans les deux cas, il est question de sortir du temps de justement cette dissimulation, ces mensonges, et d'assumer en fait qu'il y a une nouvelle façon, pas si nouvelle, un demi-siècle, de faire famille. Hein. Il y avait, disons, la procréation. On fait une famille en faisant des enfants, en procréant. Il y avait l'adoption. On fait une famille en adoptant des enfants. Et puis, il y a une troisième façon qui est très minoritaire encore aujourd'hui, mais de plus en plus importante. On fait une famille en engendrant des enfants avec l'aide d'une tierce personne qui a donné de sa capacité procréative pour vous permettre d'avoir des enfants. Donc, don de sperme, don d'ovocytes, don d'embryons et don de gestation.
Alors justement, je vais vous faire entendre un homme, Irène Théry. Il s'appelle Arthur Kermalvezen et il est devenu aujourd'hui une figure de la lutte contre l'anonymat des dons de sperme puisqu'il a pu retrouver son géniteur.
Ça me paraissait très naturel. Ce que je me disais, c'est que si mes parents ne me faisaient pas rencontrer mon donneur, c'était simplement parce qu'ils devaient estimer que j'étais pas assez mature. Donc j'ai attendu sagement l'âge de la majorité. Et puis le jour de mon anniversaire, je leur ai dit « Écoutez, maintenant ça suffit, je veux savoir qui c'est. »
Et là, on vous a expliqué que c'était pas légal.
Théâtre. Ils ne savent rien sur mon donneur. Et alors ça, pour moi, c'était inimaginable.
C'est-à-dire que le principe de l'anonymat, vous l'avez découvert à ce moment-là.
Exactement.
C'était une interview sur Europe 1 le 15 janvier dernier. On voit bien à quel point l'évolution de ces lois pose également des questions inédites, Irène Théry.
Arthur Kermalvezen est une figure depuis très longtemps de cette revendication de l'accès aux origines. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'a énormément frappée. Je l'avais invité à un colloque de bioéthique à Marseille il y a une dizaine d'années. En même temps qu'un professeur, grand spécialiste de la PMA, il y a eu un moment assez dramatique entre eux où il a été apostrophé par ce professeur qui lui a dit « Mais enfin, vous êtes obsédé par la génétique, il n'y a que ça qui vous intéresse. Pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas votre ADN? Je peux vous donner votre ADN si il n'y a que ça qui vous intéresse dans la vie. » À quoi Arthur a répondu « Mais vous n'avez rien compris ?» Mais ça, je me fiche de mon ADN, je ne vous demande pas mon ADN. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on retrouve une personne derrière justement cet ADN. Il lui a dit « Je ne suis pas né d'un matériau interchangeable de reproduction », qui est une expression que les médecins emploient, hein, « mais d'une personne. Et une personne, c'est la possibilité d'un nom, c'est la possibilité d'un visage. » Et comme il le dit aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'humaniser justement le don d'engendrement, de le remettre là où il était normalement. C'est-à-dire, il y a bien des personnes humaines qui donnent, d'autres qui reçoivent, des médecins qui font les intermédiaires. Et il faut redonner à ces actes humains leur sens et leur valeur.
Mais alors, l'une des choses que l'on a entendues suite à ces recherches, c'est que cela allait freiner le don de sperme.
Oui, mais bon, il y a beaucoup d'intox, hein. Il y a beaucoup d'intox. Il y a beaucoup d'intox parce que.
Il y a beaucoup de questions, ce qui est normal.
Vous dit que ça va freiner le don de sperme, je suis en droit de vous répondre. Il y a beaucoup d'intox. Pourquoi ? Parce qu'on a les éléments pour le dire. Il y a eu une fois, pendant une seule année, en 1985, au moment où le premier pays a levé l'anonymat des dons de gamètes, et, un petit recul qui a duré un an en Suède. Mais par exemple, lorsque le Royaume-Uni en 2005 a permis aux enfants nés de dons l'accès à leurs origines, non seulement il n'y a pas eu de recul, mais il y a eu une augmentation des dons. Donc je dis intox, parce que nous n'avons pas de cas qui crédibilisent cela. Par ailleurs, les donneurs, vous savez combien c'est de personnes ? 300 personnes. 300 donneurs de sperme, 300 à 400 donneurs de sperme en France. Ne me dites pas qu'avec une campagne bien orchestrée, et surtout une valorisation du don, parce que si on manque de donneurs en France, c'est qu'on ne valorise pas les dons. On les dissimule, on les cache, comme si c'était des choses dangereuses et un peu malhonnêtes qu'on fait dans les coins. Donc évidemment, ça n'incite pas à donner. Donc la question de la chute des dons est une pure intox, et je n'ai pas de problème de dire ça à l'antenne.
Vous êtes sociologue, vous n'êtes pas psychanalyste, mais je vais quand même vous poser une question, Irène Théry. Que vont devenir ces pères qui n'en sont pas, ou je ne sais pas très bien comment les qualifier, mais en tout cas, ces donneurs dont on pourrait dire peut-être que leur anonymat à l'avenir ne sera pas respecté.
Eh ben, je pense que c'est très simple. Une société s'est adressée à eux et leur a dit « devenez donneur ». Eh bien, cette société, elle leur a fait cette demande tout en disant « ce statut n'existe pas, ces actes n'existent pas. Si vous sortiez de l'ombre, ça serait super dangereux parce que vous pourriez menacer cette famille et vous pourriez être menacé par ces enfants ». Eh bien, le temps est venu de dire « la société organise des engendrements avec dons, elle doit donc être capable de donner un statut à ces personnes. C'est pas aux gens tout seuls, voyez, moi je crois aux institutions.
Mais justement, quel statut peut-on imaginer ?
Mais juste la réalité, c'est-à-dire ce qu'elles ont vraiment fait, elles ont donné pour que d'autres soient parents. Ils n'ont jamais voulu être parents. Les origines, c'est un mot, l'accès aux origines, c'est un mot qui est contradictoire avec la filiation. Vous savez qu'on a un Conseil national d'accès aux origines personnelles depuis 2002. Dans la loi française, il est écrit, c'est exclusif de toute filiation. Donc, un donneur n'est pas un père, n'est pas une mère. C'est une personne qui a donné pour que d'autres naissent, pour que d'autres soient parents et que des enfants naissent. Tout le monde peut comprendre ça. Donc le seul enjeu, c'est simplement d'assumer ce qu'on fait depuis un demi-siècle, de donner une place à ces personnes qui donnent, de ne pas les transformer en ce qu'ils ne sont pas, simplement de sortir d'une folie qu'on a faite. C'est-à-dire, le problème, c'est pas ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a déjà fait. C'est-à-dire, quand on met une personne et qu'on dit « cette personne, elle existe, mais il faut l'enfermer dans une armoire à triple tour pendant... » ad vitam aeternam, on crée de toute pièce un problème. Et c'est ce problème qu'il faut arrêter d'avoir créé, et tout sera simple, comme c'est déjà très simple ailleurs.
Dans ces conditions, qu'est-ce que l'on peut imaginer comme avenir pour la PMA ? Est-ce que l'on peut donc essayer d'envisager quels pourraient être les cadres de cette loi de bioéthique qui sortira de ces discussions, Irène Théry ?
Ben, je pense que sur la procréation médicalement assistée, ce qui est en jeu, c'est l'ouverture à toutes les femmes, et ça va avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que les couples de femmes, si vous voulez, elles ne sont pas tentées d'être dans la dissimulation, dans le mensonge. On les a accusées de vouloir mentir aux enfants, mais on n'a jamais rencontré un seul couple de lesbiennes qui ne dise pas à l'enfant né son mode de conception. Donc, elles vont nous entraîner vers un progrès, je dirais, éthique et juridique pour tous, qui est d'assumer enfin ces engendrements avec dons. Donc, on va mettre fin à des situations problématiques. Par exemple, aujourd'hui, on sait très bien que les lesbiennes vont massivement en Belgique ou en Espagne pour avoir recours à des dons, qu'elles sont très bien accueillies dans les maternités françaises. Le vrai problème, c'est quoi ? C'est qu'on a instillé à l'intérieur de ces couples qui ont fait un projet en commun une inégalité entre elles. La mère qu'on appelle la mère sociale doit adopter son propre enfant. Donc, eh bien, il est temps d'en terminer, que les deux femmes puissent être les deux mères dès le début, comme c'est le cas pour les couples hétérosexuels qui ont recours à un don.
Vous l'avez dit tout à l'heure, Irène Théry, le président Emmanuel Macron souhaite un débat apaisé, c'était ses mots.
Raison.
Alors, par exemple, le député Les Républicains Éric Ciotti a dit le 3 janvier son opposition au PMA de confort. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme? Et est-ce que vous pensez que ce type de commentaire laisse augurer un débat apaisé?
Non, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, je crois qu'il y a toute une rhétorique qui est faite tout à fait sciemment pour empêcher un débat apaisé, pour diviser, pour disqualifier autrui, etc., dans l'espoir, si vous voulez, que des manifs de rue vont faire reculer. Donc, je pense que ce mot est fait pour injurier, bien sûr, PMA de confort, ça fait penser à animaux de compagnie. Hein. Mais l'important est qu'on peut dire poliment une chose qui est aussi inquiétante. On n'est pas obligé d'employer PMA de confort. Le problème de fond, c'est d'opposer deux PMA. Moi, c'est ça qui me paraît le plus important à faire comprendre. Beaucoup de gens s'imaginent que si on ouvre la PMA aux couples de femmes, on va vraiment faire une rupture dans le système bioéthique français. En gros, vous allez l'entendre dans les mois qui viennent. On va vous dire, jusqu'à présent, la PMA, c'était thérapeutique, c'était fait pour soigner. Mmh. Et puis, on passe à toute autre chose qui va s'appeler une PMA sociale. Alors ça, c'est le mot du Conseil consultatif d'éthique. Et les méchants disent de confort. Eh bien, ce qu'il faut répondre, c'est très important, cette rupture entre hier la PMA thérapeutique, demain une PMA sociale ou de confort, cette rupture n'existe pas. Pourquoi elle n'existe pas? Parce que tout simplement, depuis le début de la PMA, donc depuis les années 70, il y a toujours eu deux PMA. Une PMA thérapeutique qui permet à un couple qui ne pouvait hétérosexuel, qui ne pouvait pas procréer, de procréer, c'est 95% des naissances par PMA. Et puis une PMA sociale qui ne soigne rien. À la fin de cette PMA sociale, le mari stérile est tout aussi stérile. C'est un arrangement social qui consiste à proposer à un couple, justement, de recourir à une tierce personne. C'est parce que cette PMA sociale existait que les lesbiennes se sont dit: et pourquoi pas pour nous? Donc, il n'y a pas de rupture, c'est très important. Et je pense que ça apaise le débat de le souligner.
Alors, on continue donc avec toujours ces arguments qui sont d'ores et déjà entendus. Alors, cette fois-ci, ça n'est plus contre la PMA sans père en tant que telle, mais ces arguments consistent à dire finalement, si l'on autorise la PMA sans père, eh bien on va vers une pente glissante, et cette pente glissante, c'est celle de la GPA, la gestation. Pardon,
un mot peut-être sur la GPA sans père, cette formule qu'on va entendre beaucoup. Il faut bien comprendre que l'enjeu de cette critique, c'est au fond de revenir sur l'homoparentalité. Il y a des secteurs de l'opinion qui n'ont jamais accepté la loi de 2013 qui a institué la possibilité qu'un enfant ait deux pères ou deux mères. Et donc qui ont essayé de revenir dessus et qui vont de nouveau essayer de revenir dessus. Donc parler de famille sans père, c'est dire nous n'acceptons pas qu'un enfant puisse avoir deux mères. Donc à cela, je pense qu'il faut répondre deux choses. D'abord, c'est que la loi a tranché. On ne peut pas éternellement revenir sur les décisions qui ont été prises. L'homoparentalité existe en France. Un enfant peut avoir deux mères. Alors, quelquefois, on vous répond, oui, pour l'adoption, ça va. Parce que, vous comprenez, il y a eu du malheur avant. Et donc, s'il y a une famille adoptive. Mais on ne peut pas vouloir d'emblée faire une famille sans père. Alors, je trouve que cet argument est singulièrement dégoûtant moralement. C'est-à-dire, ça consiste à dire, on veut bien vous tolérer, mais comme famille adoptive, parce que vous seriez en quelque sorte des familles de deuxième choix. D'abord, c'est dégoûtant par rapport aux familles adoptives. C'est une façon de considérer l'adoption qui n'est discriminante, je dirais, et puis par rapport à l'homoparenté. Donc, franchement, ces arguments sur les familles sans père sont des arguments, je dirais, contre la loi et contre l'adoption, quoi qu'on en dise.
Alors ensuite, l'articulation entre la PMA, la GPA, avec là aussi la notion donc de boulevard, si on laisse l'un, on va autoriser l'autre.
Bien sûr, donc il n'y a aucune automaticité. Hein. La question de la GPA, c'est un don très particulier. Le don de gestation, ça engage une femme pendant 9 mois de grossesse pour un accouchement. Donc c'est un don qui est tout à fait spécial qu'on ne peut pas comparer à un don de sperme, et c'est d'ailleurs un des problèmes qu'on a. Le don de sperme, c'est 5 minutes de votre temps, c'est ce qu'on disait aux étudiants en médecine. Alors que là, justement, ça oblige à penser le don, ça oblige à penser les risques pour la gestatrice, ça oblige à penser le lien entre la femme qui porte et l'enfant, ça consiste à penser l'épigénétique, il y a beaucoup de sujets. Donc, la GPA est interdite en France, et elle sera interdite tant que les Français considéreront majoritairement qu'elle fait courir trop de risques ou bien qu'elle est contraire à notre idée de la maternité. Les Français ne sont pas sensibles à la diabolisation. Vous savez qu'il y a une diabolisation féroce de la GPA. On va vous l'agiter comme un chiffon rouge pendant 6 mois, comme si c'était le début de la... Comment dire, de la... d'un nouvel esclavage des femmes.
Le début de la fin du monde. D'une révolution. Bon,
les Français sont plus calmes. Hein. Les sondages montrent que ils sont prêts à envisager ce sujet. Ils sont prêts à en débattre. C'est vraiment les secteurs les plus excités qui essayent d'empêcher qu'on ait ce débat auquel, je crois, l'opinion française est tout à fait prête.
Un argument à vous opposer, Irène Théry. Oui. À partir du moment où on considère que les couples de femmes ont droit à l'enfant, et on va ouvrir la PMA. Est-ce qu'il n'y aurait pas en quelque sorte un argument d'égalité disant voilà, il faut trouver une manière pour que les couples d'hommes puissent eux aussi avoir la possibilité d'avoir un enfant? Est-ce que ça n'est pas un argument qui va peser en faveur de la GPA?
Alors, cet argument de la discrimination, hein, en quelque sorte, il existe déjà. Par exemple, aujourd'hui, dans les couples hétérosexuels, on répond à la demande des femmes qui ont une infertilité génétique, c'est-à-dire qui ne peuvent pas faire d'embryon. Mmh. Et on ne répond pas à la demande des femmes qui ont une infertilité utérine, c'est-à-dire qui peuvent faire des embryons mais qui ne peuvent pas les porter. Et on ne dit pas c'est une discrimination, vous voyez ce que je veux dire? On dit c'est un problème important parce qu'effectivement, pour répondre à la femme qui a une infertilité génétique, on fait un don d'ovocyte. Pour répondre à une femme qui a une infertilité utérine, il faut une gestatrice pour autrui. Donc, ce que je veux dire, c'est que cet argument de la pente glissante, il n'existe pas plus pour passer du problème des couples de femmes au problème des couples d'hommes que pour passer du problème de l'infertilité féminine utérine ou génétique. Je ne sais pas si je suis claire. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les cas de figure, la particularité, c'est celle du don de gestation. Et tout le monde reconnaît qu'il est particulier. Et donc, la GPA est interdite à tout le monde. Donc, homo, hétéro, homme, femme. Donc, il faudra changer, il faudra évoluer. Mais la pente glissante, c'est un argument bidon.
Alors là, je me suis fait l'écho arguments qui sont considérés comme étant des arguments en faveur de la famille traditionnelle. Maintenant, je vais me faire l'écho des arguments qui sont au contraire des arguments en faveur d'une évolution beaucoup plus radicale, considérant par exemple que la notion de genre n'intéresse pas l'État et que finalement l'État n'a pas à savoir si on a affaire à des couples formé par deux hommes, un homme ou une femme, deux femmes, que tout ceci, c'est du ressort de la vie privée et que l'État doit donc être en quelque sorte étranger, ne pas intervenir dans les processus d'engendrement, ce qui rendrait en quelque sorte licite la GPA par le simple fait que là aussi, ce sont des questions privées, des questions qui ne concernent pas l'État. Qu'en pensez-vous, Irène Théry?
Je ne sais pas qui... Enfin, si, je sais un peu, mais ce sont des arguments très abstraits. Ce que je veux dire, c'est que lorsque...
Je peux vous dire qui formule cela. Et on trouve ça, par exemple, chez Marcela Yacoub. On trouve cela, on trouvait cela chez Ruven Ogien.
Non. Ruven Ogien, enfin bon... Ça serait
si vous voulez, chez Ruven Ogien, ce que l'on trouvait, et vous étiez en désaccord avec cet argument-là tout à l'heure, c'était l'idée que finalement, la modernité, c'est l'indifférence à l'égard des formes substantielles du bien, l'indifférence vis-à-vis de votre définition de la bonne vie. Et ça, à mon avis,
Ruven
c'est une
Ogien
idée qu'on peut contester.
A défendu une éthique minimale. On peut la discuter. Je pense que pour une société qu'une éthique minimale. Mais même chez Ruven Ogien et même avec cette éthique minimale, il disait que il y avait un principe fondamental, ne pas nuire à autrui. D'accord? Ne pas nuire à autrui.
Principe. Soit, mais alors. Alors, quoi, dans la... on peut considérer que la GPA nuit à autrui,
eh bien,
si elle est faite entre individus
consentants. Si vous me permettez de répondre, justement, moi je défends une approche relationnelle de ces sujets, c'est-à-dire je pars de l'idée très simple, évidente, qu'il y a plusieurs personnes en cause, et en particulier dans la procréation médicalement assistée avec un tiers donneur. Et donc la question, c'est la façon dont cette entreprise collective ne nuira à personne, ni au donneur, ni au receveur, ni à l'enfant qui en naîtra. Et donc, bien sûr qu'on peut nuire aux uns ou aux autres. Donc, l'éthique minimale de Ruven Ogier s'intéresserait justement au fait que on peut nuire à la gestatrice. Et au fond, je dirais, ce qui me gêne chez ces arguments sur le genre, c'est d'opposer le genre avec le corps. Vous voyez, il y a des gens qui n'aiment pas le biologique. Et moi, je dis, le biologique, c'est un mot que les intellectuels ont fait pour ne pas parler du corporel. Le corps est là. Moi, je suis une personne qui n'est pour aucun déni du corps. Et quand il y a une gestation pour autrui, Dieu sait que le corps est là. Donc, parlons du corps, utilisons l'anthropologie qui justement nous dit depuis toujours, le corps est là, mais ça n'est pas juste du biologique, le corps est investi de sens, de valeur, et c'est ça qui compte.
Voilà, disons que le corps est là, je mets de côté le jeu de mots Irène Théry, mais même si le corps est aujourd'hui une donnée, l'autre donnée, c'est qu'on a la possibilité de choisir son corps, ce qui est aujourd'hui une faculté nouvelle, dès lors qu'on a la possibilité aujourd'hui changer de sexe, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de considérer que l'enjeu bioéthique à venir et justement d'en tenir compte.
Non, je crois qu'il faut être beaucoup plus pragmatique, partir des réalités.
C'est ça la réalité.
Non, ce n'est pas ça. Par exemple, je prends un exemple. Puisque vous voulez aller vers ces sujets. Je suis depuis très longtemps les revendications des personnes trans. Et j'ai entendu récemment, justement, dans cette vogue « Débarrassons-nous des choses », cette formule à une émission que ces personnes seraient, je cite, « nées dans le mauvais corps ». Vous voyez, tellement on s'en fout du corps. Mais moi, mes amis trans, ils ont été horrifiés par cette formule, qu'ils seraient nés dans le mauvais corps. Ils nous disent que ces gens retardent tout à fait, parce que leur question à eux, c'est justement d'assumer leur statut de trans, leur identité trans, en étant réconciliés avec leur corps. C'est ça l'important. Ils ne sont pas des zombies qui, à différence de vous et moi, seraient nés dans le mauvais corps. Donc, faisons très attention. Les intellos qui se croient toujours en avance sur tout le monde peuvent être en fait en retard quand ils partent de considérations, on va dire, je ne sais pas comment dire, loin de la pratique et de l'expérience sociale et humaine.
Quelles sont les étapes à venir donc pour ces premières discussions donc des lois de bioéthique, Irène Théry?
Donc je pense que la première étape, donc on l'a dit, c'est l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Une autre question qui est à l'origine de la pétition à laquelle, enfin la tribune plutôt, à laquelle j'ai participé, dont je suis une des initiatrices, concerne le fait que les enfants nés de GPA à l'étranger puissent voir leur filiation transcrite intégralement à l'état civil français. C'est une revendication très importante. La ministre de la Justice, hier sur une autre antenne, a dit qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne voyait pas le problème, que la Cour de cassation avait réglé le problème. J'ai été très étonnée que notre garde des Sceaux ne sache pas que...
Elle ne veut pas savoir,
sans doute, que justement, c'est cet arrêt qui a justifié notre colère. Et j'insiste sur ce point. Pourquoi est-ce que... J'ai encore une seconde pour vous dire pourquoi tant de personnes du monde de la culture se sont joints à cette pétition. C'est intéressant d'y réfléchir. Pourquoi Muriel Robin, Geneviève Brisa, Christophe Honoré, Annie Ernaux, Ladislas Chola, Clément Hervieux-Léger, Maki Xenafis, Germain Louvet ou Clotilde M. Eh bien, tout simplement, je crois que ça n'est pas un secret de dire ces personnes connaissent dans leur entourage des enfants nés de GPA à l'étranger. Ils connaissent la réalité. Ils sont choqués de la façon dont ces enfants sont traités comme des parias sociaux. Ils ne demandent pas la légalisation de la GPA. Ils demandent juste qu'on soit calme, qu'on arrête le temps des diabolisations et des injures et que les droits fondamentaux de ces enfants soient respectés.
Merci Irène Théry de nous avoir éclairé sur ces enjeux de la bioéthique et du projet de loi qui va être discuté à partir d'aujourd'hui.